Le Café Fresconi, on est là dans la petite rue Montorgueil, là on est en plein Paris en fait. Hein. C'est presque, on se croirait presque au 19e siècle quand on est dans cette rue Montorgueil. Quand on ressort d'une première, quelle est l'impression que l'on a?
Évidemment, la chose intéressante, c'est d'être confronté avec l'objectivation parfois cruelle de ce qu'on a pensé d'une façon complètement théorique dans la tête. Et la masse, même matérielle, qui te frappe, ce miroir qui devient du coup pas virtuel, mais totalement réel, même les noms des personnages qui te parlent et tu vois le baron de Nucingen ou Carlos ou Vautrin, comme si c'était pas Laurent Nauri, mais c'était vraiment lui. Non, c'est un peu, c'est une espèce de cauchemar, rêve, hallucination, joie, comme ça. Et ça dépend évidemment de l'investissement que tu as fait dans le truc et je dois dire le degré de risque que tu as pris. Non. Donc moi, je pense que si, vu la situation d'un nihilisme et un individualisme général qui est un peu la signature de cette période et qui est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Balzac et ce roman-là, parce qu'il lui fait une analyse politique, sociale qui était citée, reprise avec beaucoup de compliments et concrétisation, Karl Marx. Et donc, son analyse, c'est extraordinaire. Pour moi, le niveau plus important de cet opéra, c'est un niveau politique, où je veux mettre en scène le cynisme, qui peut être aussi une espèce de distorsion de l'énergie humaine vers un individualisme sauvage. Mais du point de vue musical ou simplement esthétique, ou linguistique plutôt, je dirais, de langage, alors, dans cette situation où on vit tous les jours, je trouve que le rôle des artistes, si on peut utiliser, si j'ose dire, utiliser ce mot, le rôle des artistes, c'est d'être comme des antennes qui sont ouvertes et qui ouvrent les yeux, les oreilles, et surtout qu'ils acceptent le défi de se saler les mains avec le monde. Donc, évidemment, moi, je fais tout le parcours de la langue contemporaine de 20e siècle, et j'ai assimilé et j'ai filtré les choses qui, à mon avis, étaient très, très, très importantes. Et j'ai essayé de me débarrasser des choses qui étaient de petits trucs à la mode, de l'époque. La réalité a changé, même par rapport aux années 50. On ne peut pas être encore tributaire infini de certaines choses qui avaient des bases très solides pour l'époque, mais qui ne sont pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Donc, si les artistes doivent être les gens qui arrivent à élaborer une analyse du monde qui est très, très, très complexe, plein de contradictions, suffisant pour proposer ou parler simplement, dire des choses, se prendre la responsabilité de dire quelque chose, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, il faut prendre en compte toute une série de choses et on ne peut pas éviter et se refuser de se prendre de responsabilité. Ça, c'est le problème. Donc, si on ne veut pas faire ça, on peut justement dire, bon, on va travailler à un magasin Lafayette. Parce que si un artiste ne prend pas des responsabilités, les responsabilités sont des responsabilités d'aujourd'hui, ne sont pas théoriques, ne sont pas idéologiques. Et il y a des abris très confortables qui sont certains lieux encore où il y a une protection comme une espèce en extinction des artistes qui ne doivent pas rendre compte du monde, mais qui peut élaborer des théories et tout à fait privées ou conditionnées par les critiques ou une idéologie passée, et donc arriver à nier, par exemple, la possibilité de signifier comme conséquence du conceptualisme, du nihilisme qui vient d'un hyper-rationalisme, tout ça. Donc il y a toute une espèce de chute de pensée totalement rationnelle occidentale, qui c'était seulement une des possibilités, un des chemins. Comme disait George Steiner, la hubris de l'Occident, c'est justement de avoir la prétention de épuiser la totalité du monde dans la description du monde. Et ça arrive dans la tête, exclusivement dans la tête. Si on ne prend pas de risques et on se cache derrière des formules qui ne sont pas racinées dans les problèmes que vit, tout le monde vit. Ce sont des risques, c'est sûr.
Il y a eu Étimo, quand même, une des premières grandes œuvres importantes à l'IRCAM, qui était un, quand vous parliez justement de prendre la matière ou de prendre la matière du monde, là c'était la matière du texte pour en faire ou lui faire dire autrement ou du moins se révéler à lui-même.
Ben, Étimo, pour moi, dans mon parcours, c'était une question très très importante. Pas seulement parce que c'était déjà en français, c'était la première pièce que j'ai fait en français. Et il m'a pris 3 ans de travail sur Baudelaire. Et là, c'était vraiment une investigation de comment, à mon avis, dans mon investigation, justement, mon hypothèse, le son devient sens. Et là, il y a Jacobson, il y a Genette, il y a surtout encore le premier, encore une fois, c'était le dialogue de Platon sur Cratyl. Justement, le livre de Genette s'appelait Voyage, s'appelait Mimologie, Voyage, sous-titré Voyage en Cratylie, en se référant au dialogue de Platon, où on met en question, est-ce que le son des mots a-t-il une résonance avec les objets qu'il représente? Et donc, de façon structuraliste, on dirait non. C'est tout, totalement random. De façon plutôt platonienne ou je ne sais pas quoi, on dirait qu'il y a un mystère dans des dons, dans les choses. Qui s'exprime aussi au niveau, donc, au niveau de sonore. Donc il y a, moi j'aime imaginer un territoire mystérieux, souterrain, comme le souterrain de Balzac justement, où il y a les machines, comme il dit, les machinistes qui font rouler cette machine, comme des diables bleus, il dit, qui vomit l'enfer. Et l'idée de cette machine qui fait bouger le monde, qui est souterraine, chtonienne, c'est vraiment ça me va comme un gant. C'est pour ça que j'adore Balzac, parce que il va toujours au-delà des choses. Ce qu'on voit, c'est jamais ce qu'on voit, et ça c'est super fascinant. Alors le grand enjeu, si vous intéresse parler de un peu techniquement, disons au niveau de l'esthétique musicale, c'est le grand enjeu dans toutes les pièces qui ont se prendre la responsabilité de créer. J'essaie aussi d'en parler avec mes étudiants. La musique a deux territoires de base qui se confrontent et vis-à-vis lesquels nous sommes confrontés. Ils sont comme deux territoires. D'un côté, on a un conflit presque des phénomènes naturels comme des tempêtes, des volcans. Donc c'est la matière en état presque primitif organique, des forces, des énergies pures presque, qui explosent, qui clashent, qui craquent. Et ça c'est une partie absolument fascinante. Surtout parce que la musique, apparemment, n'a pas une dimension physique. Donc on ne la voit pas, on ne la touche pas, mais il arrive comme un point dans le ventre, non? Donc c'est un mystère total. Le parcours à travers l'avant-garde historique du XXe et le parcours probablement plus important du XXe siècle, c'est justement d'aller dedans la matière en oubliant par un moment tout ce qui est cliché, les oublier toujours, mais dans ce qui s'est transformé, donc la matière, cette matière-là dont je parlais tout à l'heure, prisonnière de formes conventionnelles, comme j'ai fait l'exemple d'un brique de Lego, non? Évidemment, un brique de Lego, tu peux faire des jolies petites maisons, mais c'est de l'énergie trappée, tu n'as pas inventé le brique, il est déjà prêt, c'est un peu comme un garage band sur l'ordinateur Macintosh où tu as des petites briques et tu crois de faire une pièce de musique, mais c'est une espèce de Frankenstein qui te donne de petits bouts de batterie. C'est l'horreur, c'est une chose. Bon, alors première chose, à travers le parcours du 20e, pour moi c'était de trouver les moyens de libérer cette énergie. Donc, étudier profondément le travail de Stockhausen, de Boulez, à travers de Berio, de Maderna, pour trouver la raison et les éléments, les outils analytiques pour comprendre comme cette matière, différentes matières, paramètres, ils se combinent, ils s'opposent, voilà. Donc, ça c'était super important. Ce sont les outils qui viennent de 5000 années de pensée occidentale. Et ça, c'est la moitié du problème, peut-être plus. Et de l'autre côté, on a ce que j'appelle la pression sémantique. Et donc, tout le couche accumulée d'expériences qui marchent ou marchent pas, qui ont été retenues au fur et à la mesure avec le temps qui passe et qui nous appelons l'histoire. Et ça, on ne peut pas la nier. Elle est là. Surtout, on ne peut pas la nier dans une situation de manipulation totale dans laquelle on vit tous les jours, due principalement à l'explosion de la technologie. C'est évident que les minorités qui ont géré le pouvoir depuis toujours, ils ont toujours eu le problème principal d'empêcher tous les autres, donc la majorité, de savoir qu'ils étaient des esclaves. Et il y avait un nombre très petit de gens qui étaient des privilégiés. Donc le problème, c'était toujours un problème de communication. Dès que dans le Moyen Âge, c'était suffisant d'envoyer quelques chevaliers et frapper les paysans sous la tête, et analphabètes évidemment, là c'était un peu plus complexe, c'est devenu plus complexe parce que le capitalisme évolue déjà au début du XXe siècle à s'inventer une idée, je trouve, géniale, c'est-à-dire qu'ils ont transformé les esclaves en consommateurs. Et ça, on ne peut pas nier que c'est génial. Parce que c'est vraiment l'esclave qui, pas seulement il est obligé à construire des choses pour les gens de pouvoir, pour les patrons, mais en plus il doit aussi acheter. Donc c'est, de leur point de vue, c'est génial cette histoire. Et ça évolue de pire en pire. Donc avec la technologie, ils ont eu des nouveaux outils pour gérer les masses. Et on est arrivé à un tel point de manipulation que pas seulement, c'est même pas voulu, parce que si on pense pour une seule seconde que pour la première fois dans l'histoire humaine, on a par exemple 15 siècles de 5 continents de musique tous ensemble en même temps dans notre cerveau. Ça, c'est insupportable, c'est trop, c'est impossible. Imaginons Mozart, l'époque de Mozart, une symphonie qui était écrite 3 mois avant, c'était déjà vieille. Donc allez, on va faire une autre, hein. Et en plus, la conception du temps était complètement différente. Il fallait une semaine de fiacre pour se rendre à Prague pour écouter live une symphonie de Mozart, si on était à Paris, par exemple, non? Et ça, on n'a pas ce rythme-là aujourd'hui. Plutôt, on a une sovre-information, on a une saturation totale. Et il faut s'en sortir de cette saturation. Ou, cette espèce de nuage, de brume gris totalement... presque noir désormais, où tout est égal à tout. Donc Monteverdi, c'est égal à Lady Gaga, et non, parce que les gens, ils sont complètement confus. L'idée de qualité, dès qu'on n'a pas de repères partagés, c'est disparu complètement. Qualité, c'est quoi la qualité, non? À partir de quel repère on décide qu'on a une qualité ou pas? Et donc... la violence de cette pression sémantique, je l'appelle comme ça, disons, la puissance évocatrice de l'histoire, a totalement comblé notre hard disk qu'on a ici dans la tête, dans le cerveau, et c'est une question de survivance, de s'emparer des outils, de certains outils analytiques pour être capable réinstaller dans un libre pensée, non? Donc, la seule chose qu'on peut essayer de rechercher aujourd'hui, mais pas en niant que ça n'existe pas, mais avec un pied bien raciné dans l'histoire du XXe, regarder dans la rue, ça peut être rue Montorgueil où on est assis maintenant, ça peut être la rue dans le sens métaphorique, mais dans le monde, c'est salé les mains. Avec, évidemment, et ça c'est la différence avec l'exploitation des émotions que on voit dans les séries télé, le cinéma. Donc moi, j'ai vraiment du mal, je me sens très mal à l'idée de céder comme un cadeau. Le monopole de l'inconscient, du cœur, du corps, à la musique commerciale, au pop de la pire espèce, et aussi justement les émotions grand public de La La Land, des choses dégoûtantes. Mais pourquoi? Alors le grand problème, c'est toujours, c'était, et aujourd'hui évidemment ça reste, de connecter une tête qui s'en va pour des chemins virtuels, parce que justement, par son, à la force de vraiment se confronter avec les problèmes du monde, et l'absence d'identité. Et de l'autre côté, on a un corps séparé, complètement séparé de la tête, que les gens amènent dans les gyms, et ils essaient de le sculpter comme si c'était une pièce de bois. Donc c'est pas... chez les Grecs, ils n'avaient pas un nom pour le corps si c'était pas un cadavre. Donc soma, c'est quelqu'un qui est privé de la vie. Mais il n'y avait pas un mot pour parce que ils pouvaient pas concevoir l'idée que il y a quelque chose de détaché entre la tête et le corps. C'est une unité. Et là, aujourd'hui, on a perdu ça. Et donc je vois pas. Je vois que cette idée de l'impossibilité de signifier, c'est très confortable, et c'est pas impossibilité, mais c'est impotence. Alors, disons-le, on n'est pas capable parce que on a abandonné l'idée, on peut pas résister, on a renoncé à l'idée de la possibilité, donc on est impotent et on n'a pas les idées et les outils de signifier. Et ça, c'est un symptôme très évident. Et donc c'est pas une proposition, une suggestion, même une parole. C'est s'abandonner à l'évident parabole descendant de la culture occidentale. Ça, c'est évident pour tout le monde. Mais moi, je suis vivant. Je suis là. Je suis vivant et je veux pas m'abandonner à cette idée de ah, c'est fini, la mort, tout est fini, l'art est fini, l'homme est fini, la décadence, l'impotence. Ok, c'est très confortable, surtout si, comme dans certains pays, tu es subventionné. Ça, c'est... Alors tu restes dans ton petit abri et tu fais tes petites discussions dans des petits groupes de 20 personnes et bon, ça va, mais après... Dehors, il y a les vandales, non, comme à l'époque de l'Empire qui romain qui était en train d'être dévasté. Et, sauf que là, on a pas des vandales, mais on a des gens qui viennent du sud du monde, si on peut l'appeler comme ça, qui meurent de femmes, et ils ont des guerres, ils ont une situation, la plupart desquelles, c'était généré par nous. Donc, c'est encore plus compliqué qu'à l'époque de... Et vis-à-vis d'une situation comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux cacher dans une petite pièce et parler du sexe des anges, comme on dit en italien, avec tes petits copains? Moi, je trouve que les artistes, au risque de faire des erreurs, mais ils se doivent investir dans des responsabilités. Et donc, par exemple, dans ces cas-là, j'ai voulu me confronter avec l'histoire d'Opéra Garnier, l'histoire de Balzac, mais à travers quelqu'un comme Balzac qui avait un regard visionnaire, disait Baudelaire, et pas réaliste, de me confronter avec l'idée de base, c'est l'idée d'un pacte narratif. Est-ce que c'est possible ou pas? Moi, j'ai pas de réponse. Moi, j'essaie.